France Musique.
Mais tout de suite, donc événement, à 22h, Thomas Vergrast reçoit le compositeur John Corillian.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, nous recevons un maître dans tous les sens du terme. Compositeur américain, il exerce son métier depuis plus de 50 ans. Joué régulièrement par les plus grands orchestres comme le New York Philharmonic ou le Chicago Symphony. Professeur durant de nombreuses années à la Juilliard School, où il forme toute une génération de compositeurs, de Nico Muhly à Eric Whittaker, en passant par Mason Bates et le français Jules Maton, il remporte un nombre de prix astronomiques, parmi lesquels plusieurs Grammy Awards, le prix Pulitzer, le prix Grawemeyer et même un Oscar. Paradoxalement, on connaît encore peu sa musique en Europe. Début décembre a pourtant été joué pour la première fois en France son opéra Les Fantômes de Versailles à l'Opéra Royal du Château de Versailles, un retour à la maison pour une œuvre importante du compositeur John Corigliano, dont nous allons dresser ce soir le portrait. Bonsoir John Corigliano.
Good evening.
Good evening.
John Corigliano, qu'est-ce que ça fait d'avoir vu ces derniers jours votre opéra joué en France et dans un tel cadre?
It's a big thrill, especially with this opera.
C'est formidable, surtout s'agissant de cet opéra en France. Cet opéra était conçu pour être joué dans ce théâtre à Versailles, après avoir été commandé par le Met. Et le fait que l'action va s'y dérouler, c'est formidable. Les mots me manquent.
John Corigliano, si l'on remonte le fil de votre carrière, on s'aperçoit déjà que vous n'arrivez pas à la musique par hasard, puisque votre père a longtemps été violon solo du New York Philharmonic.
Mon
père était violon solo du New York Philharmonic et ma mère, elle, était pianiste. Elle n'a jamais joué en public, mais c'était une excellente pianiste. J'ai beaucoup écouté mon père lorsqu'il répétait ses concertos et lorsqu'il jouait au New York Philharmonic, donc j'ai grandi dans la musique.
Et du coup, dans ce milieu musical, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir compositeur?
Well, one of the things about my father performing, say, with the Philharmonic or any other.
Lorsque mon père jouait avec le New York Philharmonic ou avec un autre orchestre d'ailleurs, il était assez anxieux, il était inquiet, et moi aussi d'ailleurs. Moi j'étais petit garçon, j'avais quoi, 7 ans, 6 ans, et je connaissais chacune des notes du morceau qu'il devait jouer, et je connaissais les notes dites dangereuses. Donc moi, je me cachais dans les coulisses et j'écoutais mon père, non pas en direct, mais à partir des enceintes. J'étais trop inquiet pour être dans la salle. Et par conséquent, moi-même, je ne pouvais pas jouer en public. J'aurais eu beaucoup trop le trac. C'était impossible pour moi d'envisager cela, quel que soit mon amour pour la musique. Ma mère, elle, était enseignante. Elle enseignait le piano. Elle m'a donné deux cours. Ça s'est mal passé et je n'ai jamais étudié le piano. Mais en fait, j'ai une assez bonne oreille et j'ai pu improviser. Et je me suis dit que je pouvais faire ma propre musique. J'ai commencé à écouter des compositeurs contemporains parce qu'à l'époque, le disque LP, le vinyle, venait d'être inventé. Et on a enfin pu écouter la musique de compositeurs contemporains dont on ignorait l'existence. Et j'ai pu trouver des partitions et c'est ainsi que je suis tombé amoureux de la composition.
Vous avez étudié la composition à Columbia et à la Manhattan School de New York dans les années 50. C'était quoi le paysage musical qu'on proposait alors aux étudiants en composition à l'époque?
Dans les années 50, à New York et vraisemblablement partout aux États-Unis, on abordait la musique dodécaphonique et la musique sérielle de manière très rigoureuse. Moi, la musique que je composais n'était pas à la mode. Et mon professeur de composition, Otto Luning, me disait sans cesse, mais pourquoi tu composes cette musique-là? Pourtant, tu sais bien que tu peux pas faire ça. Et moi, j'ai dit, parce que je trouve ça très beau. Donc, j'ai continué à composer comme ça.
Je vous propose du coup d'écouter une des œuvres que vous avez composées à l'époque. C'était votre Kaléidoscope pour deux pianos, une œuvre de 1958. Vous aviez alors 20 ans. Est-ce que le compositeur de 81 ans aujourd'hui reconnaît encore ces pages d'un jeune homme d'une vingtaine d'années?
I must say that I wrote that Kaléidoscope as a student in Columbia.
Ce Kaléidoscope, je l'ai composé lorsque j'étais étudiant à la Columbia. Il a ensuite été joué au festival de Spoleto en Italie, puis publié par Schirmer. Jamais en le composant, je ne pouvais imaginer que ce serait cela son destin. C'est merveilleux.
Mais pourtant, c'est une œuvre que vous reconnaissez dans vos propres œuvres.
C'était une pièce composée par quelqu'un en fin d'études. C'était le début de ma carrière de compositeur. C'est un peu jazzy.
That kind of enjoyment in the jazz rhythms and harmonies.
Vous voyez les harmonies, cette espèce de plaisir de la musique jazz et la culture de l'Amérique.
In my early days,
et j'aimais beaucoup ça, et c'est comme ça que je composais au début.
Le kaléidoscope frais et pétillant de John Corigliano, une œuvre de jeunesse composée à l'âge de 20 ans en 1958, ici par John et Richard Cantiguglia. John Corigliano, dans ce kaléidoscope, il y a une vivacité, des échanges de timbres entre les deux pianos qui évoquent presque malgré eux l'orchestre symphonique. Et au regard de votre catalogue et aussi à l'écoute de votre musique, on se rend compte que l'orchestre symphonique, c'est plus qu'une passion, c'est une vraie matrice pour vous pour composer. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, John Corigliano?
Well, as I said, I grew up with the orchestra.
Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans le milieu de l'orchestre. Je me souviens de Bruno Walter qui dirigeait la symphonie héroïque. Moi, j'étais petit garçon et j'étais fasciné. Le deuxième mouvement de la symphonie héroïque dure 22 minutes. Et moi, j'étais là, subjugué. J'écoutais.
the immense power and
quelle puissance, quelle qualité, ces changements de timbre, le dynamisme de l'orchestre, c'est incroyable. Tous les compositeurs, à mon avis, adorent cela, moi le premier.
Cette passion pour l'orchestre, c'est peut-être aussi l'influence des compositeurs si typiquement américains de l'Americana, comme Copland ou Bernstein, qui avaient un goût développé pour l'orchestre et que vous connaissez bien d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Aaron Copland et Leonard Bernstein, je les ai connus. Bernstein a dirigé la première mondiale de mon concerto pour clarinette avec le New York Philharmonic en 1977. Et j'ai travaillé pendant 13 ans avec les concerts pour les jeunes musiciens. Aaron Copland, c'est un homme formidable. Et par ailleurs, j'admire beaucoup les autres compositeurs américains désormais oubliés, Walter Piston, Howard Hanson, tous ces grands compositeurs, William Schumann, des compositeurs formidables et dont les œuvres ne sont guère jouées aujourd'hui, mais je les aimais beaucoup.
John Corigliano, l'orchestre, ça vous fascine? Vous l'avez utilisé dans toutes ses combinaisons possibles et avec un nombre incalculable de solistes, y compris la voix. Et cette association, voix et orchestre, on la retrouve dans une cantate, je ne sais pas si c'est le bon mot, Mr. Tambourine Man, sept poèmes de Bob Dylan. Pourquoi ce choix des textes seuls de Dylan ?
Lorsque j'étais sollicité par le Carnegie Hall pour composer un grand cycle de chansons, je voulais composer à partir de la poésie d'un auteur américain. Mais Emily Dickinson et d'autres poètes aussi connus qu'elle avaient déjà été mis à l'honneur. Et je voulais que toute l'Amérique puisse connaître cela, au-delà des simples amoureux de la poésie. J'en ai parlé à des amis. L'un d'eux m'a dit que je devais regarder les paroles des chansons de Bob Dylan. Je ne connaissais pas la musique de Bob Dylan. C'est une espèce de musique folk qui ne me disait trop rien à l'époque. Bref, je me suis procuré ce grand livre des paroles des chansons de Bob Dylan et j'ai été subjugué par cette perception ô combien précise qu'il a dans sa poésie. D'ailleurs, il a gagné le prix Nobel par la suite. C'est un formidable poète, Bob Dylan. Et par conséquent, j'ai composé sept chansons dans un cycle qui dure 35 minutes. Pour représenter la perception de plus en plus vive qu'a Bob Dylan des problèmes politiques qui pèsent sur les États-Unis. La première chanson, Mr. Tambourine Man, se passe dans les années 60. C'est l'époque psychédélique. C'est plein de couleurs, de drogues et tout ça. Et les sept chansons constituent un cheminement de cette compréhension de la société américaine.
Je vais vous proposer une petite expérience, John Corigliano. On va s'intéresser au premier de ces sept poèmes, l'ultra célèbre Mr. Tambourine Man. Et comme cette pièce est parue également en version piano, je vais vous proposer d'écouter un peu de ces deux versions, voix et piano et voix et orchestre. On va pouvoir ainsi mieux se rendre compte du processus d'orchestration. Mais avant, est-ce que vous pourriez juste nous lire quelques lignes de ce texte mythique de Bob Dylan qui date de 1965?
Mr. Tambourine Man.
La chanson commence par le refrain. Mais à la lecture du poème, je me suis dit que tout commence par la première strophe. En effet, il s'agit d'un personnage qui a du mal à dormir, qui est fatigué, il n'y a personne à rencontrer. Les rues sont vides, elles sont trop mortes pour rendre le rêve possible. Et ensuite, Monsieur Tambourine Man arrive et amène cette personne vers le monde fantastique. La chanson de Bob Dylan, je l'ai entendue pour la première fois après avoir composé l'ensemble du cycle. Bob Dylan, lui, présente une mélodie qu'il chante, aussi bien pour le refrain que pour les strophes. C'est une mélodie en 8 mesures et il la répète, je crois, une trentaine de fois. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, en réalité. C'est ce que font tous les compositeurs classiques la plupart du temps. Il peint avec de la musique et il peint son point de vue à partir des mots. Pour moi, ça prend une tournure différente. Je vais vous lire le poème tel que je l'ai prononcé et on commence par la strophe.
Though I know that evening's empire has returned into sand. Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I'm branded on my feet. I have no one to meet. And the ancient, empty streets, too dead for dreaming.
Hey,
Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
I'll come following you. Though I know that evening's empire
has returned to sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I'm branded on my feet. I have no one to meet. And the ancient empty streets too dead for dreaming.
La poésie de Bob Dylan, la musique de John Corigliano, c'était Mr. Tambourine Man, le premier des 7 poèmes de Bob Dylan, mis en musique par John Corigliano en 2000, précédé évidemment de la version originale de la chanson de 1965. John Corigliano, on l'entendait dans votre Mr. Tambourine Man, votre musique est intensément dramatique, souvent très contrastée, très colorée. Pourtant, paradoxalement, vous n'avez composé qu'un seul opéra.
I never really wanted to write an opera.
Je n'ai jamais vraiment voulu écrire un opéra.
And I talked about
Aaron Copland et moi, nous en avons parlé un jour. Et il m'a dit, n'écris jamais d'opéra. Tu y passeras 4 ou 5 années de ta vie. En réalité, j'y ai passé 12 années de ma vie. Et puis, cet opéra sera joué et puis on l'oubliera. Alors que pendant ce temps-là, tu pourrais écrire 3, 4, 5 symphonies qui seront jouées et rejouées. Donc, je n'avais jamais envisagé d'écrire un opéra jusqu'au jour où James Levine, lors d'un dîner, m'a demandé si cela m'intéresserait. Et moi, j'ai dit non. Il m'a dit, mais pourquoi pas? Et j'ai dit, mais Aaron Copland m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse l'opéra. Et en toute franchise, et j'ai ajouté, je ne l'avais jamais envisagé. Mais il m'a dit, mais qu'est-ce que tu ferais si tu devais écrire un opéra? Et j'ai dit, mes opéras préférés, ce sont des opéras bouffe. Il y a des arias, des duos, des ensembles. Et mes personnages préférés dans les opéras bouffe, c'est les membres de la famille Alma Viva, Figaro et Suzanne. Et je sais qu'il y a une troisième pièce de Beaumarchais. En dehors du Barbier de Séville et du Mariage de Figaro, il y a... Donc, j'ai dit à James Levine, je vais m'emparer de cette pièce et en faire un opéra. James Levine voulait un opéra pour le 100e anniversaire du Met. C'est pourquoi il m'a sollicité. Puis, je me suis dit que Marie-Antoinette et Beaumarchais, qui n'étaient pas dans la pièce, je devais les mettre dans mon opéra. Et cet opéra, je voulais qu'il représente un univers distinct de celui des personnages du XVIIIe siècle. Et je voulais les représenter dans un style plus réaliste, dans un univers de fumée.
Et justement, à propos de votre opéra, Les Fantômes de Versailles, c'est une œuvre qui est parsemée de vrais faux pastiches, de bel canto, de style classique. Et pourtant, vous dites que votre musique se situe au-delà de l'ironie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ça, John Corigliano?
Lorsqu'un compositeur fait de la musique ironique ou du pastiche, il traite le sujet de façon non sérieuse. Les personnages du XVIIIe siècle mènent leur vie au XVIIIe siècle. Par conséquent, il ne serait pas pertinent d'avoir de la musique même néoclassique, parce que c'est Suzanne, Figaro, le comte, la comtesse, tous ces personnages de Beaumarchais. Il faut les faire exister dans le vrai monde du XVIIIe siècle. Et moi, je prends cela très au sérieux. C'est un monde très beau et les personnages exigent cela. Mais par ailleurs, j'ai été libre avec les fantômes de Versailles de faire des choix différents. Et avec les fantômes, je vois au loin le monde classique que je rejoins parfois. Je fais des allers-retours, il y a de la concomitance. Et c'est ainsi que j'ai conçu cet opéra. Il n'y a pas d'ironie là-dedans. Il n'y a pas de pastiche là-dedans. Tout cela a été fait parce que c'est l'exigence des personnages.
Et il y a aussi un fait, c'est que sur scène, il y a 2 orchestres dans la version originale. Est-ce que ça fait aussi partie de cette volonté de faire quelque chose qui colle encore plus à la peau des personnages?
The character Béjars, who was our villain,
le personnage de Béjars, cet intrigant, était une création de Beaumarchais. Et Béjars était un faux révolutionnaire qui a pris le pouvoir en haranguant les foules.
We didn't approach this.
Mais nous, n'avons pas vu cela d'un point de vue négatif par rapport à la Révolution française qui devait avoir lieu, tout comme notre Révolution américaine à nous, notre guerre d'indépendance qui a précédé la Révolution française. Mais l'idée de la violence et de la destruction pour le changement, c'est une idée qui nous répugne. Nous pensons que nous pouvons changer les choses sans pour autant être obligés de tuer ou de faire le mal. Donc, chanter les louanges de la monarchie ou de la révolution, c'était pas du tout ce que nous voulions faire. Il s'agissait de Marie-Antoinette. C'est une fantaisie, cette opéra. Et à la fin de l'opéra, Marie-Antoinette dit « Non, les choses sont ainsi qu'elles auraient dû être. Je dois mourir. » Et elle accepte cela. Elle assume cela. Et dans le dernier aria, elle pardonne tout le monde parce qu'elle comprend que c'était bien le destin. Il a fallu que je garde cela en mémoire pendant les répétitions parce que je voyais qu'il y avait un risque de choquer certaines personnes, mais ce n'était pas notre intention.
Un extrait du premier acte des Fantômes de Versailles de John Corigliano. La troupe du LA Opéra était dirigée par James Conlon. John Corigliano, vous avez évoqué votre rapport au texte, à l'opéra, et vous êtes un compositeur qui aimait aussi beaucoup la forme du concerto, donc c'est un instrument et un orchestre symphonique. Vous avez écrit en effet de très nombreux concertos pour toutes sortes d'instruments, et personnellement j'y vois dans chacun d'eux des lieux de théâtre à part entière, où le dialogue entre le soliste et l'orchestre c'est en fait comme un opéra sans parole.
Absolument. Le concerto, c'est une forme d'opéra. Le concerto romantique et le concerto moderne, évidemment. Il y a les protagonistes, les solistes et l'orchestre. Et moi, j'adore composer des concertos. C'est vrai que j'ai entendu mon père jouer de nombreux concertos. Et ainsi, j'ai pu comprendre l'exaltation et la tension qui règnent dans un concerto. Et j'ai composé de nombreux concertos dans différents cadres.
Est-ce qu'il y a des concertos qui vous ont marqué dans votre jeunesse quand vous avez écouté votre père jouer?
When I heard my father play concerti, of course, the great concerti.
Bien entendu,
concerti meant a lot to me.
Les grands concertos m'ont impressionné lorsque j'écoutais mon père les jouer. Mais mon père a joué un concerto de William Walton, qui était une pièce contemporaine. Et à cette époque-là, je n'avais pas tellement entendu de musique contemporaine. Et là, il s'agit d'un concerto fantastique. C'est de l'horlogerie. Tous les éléments sont liés les uns aux autres. Il a été composé pour Yasha Heifetz, et du reste, c'est lui qui a fait le premier enregistrement. Et j'ai appris à le connaître si bien, ce concerto, que je savais ce que devait jouer chacun des instruments. Et le rythme du deuxième mouvement, cette irrégularité, tout cela, ça a été une inspiration pour moi. Et à partir de là, j'ai décidé de composer mes propres concertos.
Je vous propose, John Corigliano, d'écouter un extrait d'un de vos concertos, un de vos hits presque, puisqu'il s'agit du concerto pour clarinette que vous avez écrit en 1977, qui a été, on le disait tout à l'heure, créé par Leonard Bernstein et qui a été une commande très importante dans votre carrière de compositeur.
Yes, the clarinet concerto was really an extraordinary.
Ce concerto pour clarinette, c'était un événement extraordinaire pour moi, à bien des égards. Tout d'abord, le New York Philharmonic n'avait jamais rien joué de moi, alors que je connaissais tous les musiciens. On est parti en tournée en 1951 pour aller au Festival d'Édimbourg. J'y étais. Je leur ai tous parlé et je les connaissais tous. Mon père, évidemment, les connaissait tous. Et par ailleurs, mon père, qui avait pris sa retraite de l'orchestre quelques années auparavant, est décédé avant que je puisse écrire ce concerto, 2 ans auparavant. Et lorsque j'ai compris que je devais écrire un concerto pour Stanley Brucker, qui est arrivé dans l'orchestre à l'âge de 18 ans,
et Leonard Bernstein, le master.
Et Leonard Bernstein, le grand maître dont on connaît la théâtralité, devait diriger l'orchestre. Et moi, je savais que je devais composer un concerto où mon père serait représenté comme violon solo alors qu'il était absent. Et le deuxième mouvement, c'est une élégie lors de laquelle la clarinette joue, puis le violon joue, et ensuite il y a un grand duo entre ces deux instruments. Le premier mouvement, c'est des cadences. Le deuxième mouvement, c'est une élégie en l'honneur de mon père. Le troisième mouvement, c'est une toccata. Je n'aurais jamais écrit ce concerto pour quelque autre orchestre que le New York Philharmonic. Et ces sentiments que j'ai pour l'orchestre, mon père, les solistes et le chef d'orchestre.
Thank you.
Vous êtes sur France Musique, carrefour de la création spéciale John Corigliano, qui nous fait l'honneur de nous accompagner tout au long de cette émission, d'où nous écoutions à l'instant un extrait du deuxième mouvement de son concerto pour clarinette, une œuvre de 1977, ici par le clarinettiste Paul Meyer, accompagné par l'orchestre philharmonique de Bruxelles, dirigé par Eddie Van Oosthuizen. John Corigliano, vous êtes un compositeur qui ne renie pas le passé, on l'a vu, mais vous n'hésitez pas non plus à ancrer votre musique dans le présent et dans l'actualité. En 1990, vous êtes compositeur en résidence au Chicago Symphony Orchestra, et dans le cadre de votre résidence, vous entreprenez d'écrire une grande pièce d'orchestre, 40 minutes de musique, pour rendre hommage à vos amis décédés du sida. On est alors en pleine épidémie.
The 1980s. It was one of the most horrible.
Les années 80.
Years.
Une des époques les plus horribles que je puisse imaginer.
All my friends were dying.
Tous mes amis décédés, les uns après les autres. J'ai perdu plus d'une centaine de personnes que je connaissais. Lorsque le Chicago Symphony Orchestra m'a demandé de composer une pièce parce que j'étais le compositeur en résidence, il s'agissait de composer pour Sir George Solti. Il voulait que j'écrive un concerto pour orchestre. Mais mon ami de 30 ans, qui était un pianiste formidable, un homme brillant, très drôle, a eu une pneumonie, autrement dit, il était condamné, il ne lui restait que 2 ans à vivre, il n'y avait pas de traitement. J'étais à l'hôpital lorsque le médecin lui a annoncé la nouvelle. Il est impossible de composer un concerto pour orchestre quand on sait cela. À cette époque, le président n'a pas reconnu l'existence du sida. Personne n'en parlait. J'ai donc dû demander la permission à l'orchestre, parce que peut-être qu'on allait m'interdire de traiter ce thème. Fort heureusement, l'un des dirigeants de l'orchestre était tout à fait de mon côté. Il m'a dit « Écris cette pièce ». La pièce, je l'ai écrite pour mes amis morts du sida. C'était une pièce funèbre. Le deuxième mouvement, c'est une tarentelle en l'honneur d'un de mes amis qui était à la tête d'une société de piano à New York. Et en 1970, avant l'épidémie du sida, j'ai écrit une série de pièces pour piano à quatre mains. J'ai écrit 4 danses et je les ai dédiées à mes amis qui ne sont pas des pianistes professionnels mais qui adoraient jouer du piano. Tout d'abord, ma mère qui adorait jouer des pièces à quatre mains et d'autres personnes aussi. Et la dernière pièce était dédiée à cet ami Jack Roman. C'était donc une tarentelle. Vous connaissez cette danse italienne. Elle était assez joyeuse, assez rythmée, assez enlevée. Et il a adoré le morceau. La pièce a été publiée, les années se sont écoulées. Puis, en 1985, il est décédé. Il est décédé de démence. Il était frappé par le sida et il y a un moment où le virus frappe le cerveau et on devient dément. Et l'ironie du sort, c'est que la tarentelle, c'est une chanson ou un rythme plutôt visant à éloigner la maladie. Quelle ironie! Le rythme de cette pièce vise à éloigner la maladie mentale. Et des groupes de musiciens jouaient cela à la Renaissance en Italie. Et ils jouaient ces tarentelles et les fous dansaient dans la cour, dans les villes. Et cela allait de plus en plus vite, le rythme devenait effréné. Certains tombaient morts, raides morts, alors que d'autres étaient guéris. Jack, mon ami, lui, est mort. Et donc cette tarentelle de 70, si pleine de joie, je la fais revenir. Mais maintenant, évidemment, il y a cette ironie avec la maladie mentale, cette démence. Et donc il y avait tout un tas de rythmes effrénés et tout à coup, C'est la lucidité que l'on voit. Et puis à nouveau la folie, puis à nouveau la lucidité. Et ensuite il y a le cri primal. C'est un morceau assez long, assez difficile, il faut bien le dire. Mais j'étais obligé de le composer.
Thank you.
La folie de la tarentelle de la symphonie numéro 1 de John Corigliano, le Chicago Symphony Orchestra était placé sous la direction de son chef de l'époque, Daniel Barenboim. John Corigliano, une autre manière d'être ancré dans son époque, c'est peut-être de s'attaquer à la musique de film et de collaborer avec le cinéma. Et c'est d'ailleurs par ce biais que le grand public a aussi appris à vous connaître. Lorsque vous vous attaquez à une partition qui est conçue pour l'image, est-ce que vous l'abordez en vous disant « je sers l'image et j'y abandonne ma musique » ou bien « je vais composer comme s'il s'agissait d'une pièce de concert »
When you do a film score,
lorsque l'on compose une partition pour un film, on a intérêt à savoir qu'il faut servir le réalisateur. Parce que le réalisateur, lui, il peut prendre la partition, la mettre à la poubelle ou alors la saucissonner, la jouer à l'envers, faire ce qu'il veut avec. Il faut suivre les instructions du réalisateur. Mais ça ne signifie pas qu'on n'a pas ses propres principes et ses propres critères de qualité. Pour certains films, la musique qui était nécessaire, ben moi je ne pouvais pas la composer. Pour Altered States, Ken voulait une musique étrange, débridée. Et moi j'ai pu faire évoluer certaines de mes nouvelles techniques pour les jouer à titre expérimental. Et c'est une partition très ample. Et c'était très exaltant de composer cela, parce que moi j'étais un jeune compositeur. Le violon rouge, c'est une autre histoire. En effet, il y a une bonne partie du violon, d'ailleurs, il y a un moment où il y a des violonistes qui jouent et le tournage était fait. Autrement dit, il fallait enregistrer la musique avant de tourner les images. Les trois quarts du film ont été faits à l'avance. Et moi, il a fallu que je compose le thème d'Anna, qui est le thème du violon rouge. Et j'ai composé ce thème en 7 accords et nous avons utilisé cela pour donner de la cohérence au film. Parce que ce film se déroulait dans 5 pays différents, dans 5 langues différentes. Et j'ai dit au réalisateur qu'il me fallait de la colle musicale pour donner de la cohérence au film. En composant les choses ainsi, j'ai pu donner de l'unification à ce qui se passe en Chine, en Autriche, en Angleterre et ailleurs. Et en réalité, cette composition était assez naturelle pour moi, parce que moi j'ai baigné dans le violon, j'adore le violon. Et donc, écrire pour un violoniste, surtout si c'est Joshua Bell, c'est quelque chose de formidable pour moi. Donc, il y a le thème d'Anna, il y a tous les caprices qui reposent toujours sur les 7 mêmes accords que le thème d'Anna, toute la musique des gitans. Tout cela a été enregistré, puis le tournage a eu lieu un peu partout dans le monde. Et pendant le tournage, Peter Gelb, qui à l'époque était à la tête de Sony Classics, aujourd'hui à la tête du Metropolitan Opera, était en train de produire la bande-son. Et il a décidé que ce serait une bonne idée d'avoir une pièce orchestrale pour le lancement du film. Il s'est avéré que la pièce orchestrale a été jouée avant le lancement du film parce qu'il fallait fixer une date et cette date a été fixée avec l'orchestre et Joshua Bell à San Francisco. Et il m'a donné l'été pour composer la pièce. Évidemment, j'avais toutes les briques pour faire cela. J'avais le thème, j'avais les 7 accords, j'avais la chaconne, j'avais les motifs, des caprices et ainsi de suite. Donc j'ai bâti la pièce qui s'appelle La Chaconne pour violon et orchestre. Et ça a été joué par Joshua Bell. Des années plus tard, ça dure 17 minutes. Hein. Des années plus tard, je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute des mouvements pour en faire un concerto. J'ai parlé à Joshua et à mon éditeur. Ils ont eu la permission de plusieurs orchestres et j'ai composé 3 mouvements supplémentaires. Avec ces 3 mouvements, je suis arrivé à un concerto pour violon. Mais ce que l'on peut jouer séparément, c'est la chaconne pour violon et orchestre.
On écoute tout de suite un extrait de cette chaconne dont vous parliez, John Corigliano, le premier mouvement de votre concerto pour violon, par Joshua Bell, le Baltimore Symphony et Marin Alsop. Et on précise quand même que cette partition du violon rouge, ça vous a valu un Oscar en 1999.
Thank you.
un extrait de la Chaconne, le premier mouvement du concerto pour violon de John Corigliano, Joshua Bell, le Baltimore Symphony et Marion Alsop. Pour terminer notre émission, John Corigliano, je vais vous proposer de répondre à quelques questions rapides à la manière d'un questionnaire de Proust. Une œuvre du passé qui vous représente.
The Heroic Symphony by Beethoven.
La symphonie héroïque de Beethoven.
Une œuvre du XXe siècle qui vous représente et qui n'est pas de vous.
The Rite of Spring of Stravinsky.
Le Sacre du Printemps de Stravinsky.
L'œuvre de vous qui vous est la plus chère.
The last good performance.
La dernière bonne performance en date d'une de mes compositions.
L'œuvre que vous auriez envie d'écrire.
A Requiem.
Un Requiem.
Merci John Corigliano d'être passé nous voir ce soir dans les studios du Carrefour de la Création sur France Musique.
Thank you so much.
Au Carrefour de la Création ce soir, il y avait à la technique Manuel Couturier, collaboration Marjolaine Portier-Kaltenbach, à la réalisation Claire Lagarde. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour pénétrer au cœur de la musique d'Arvo Pärt.
À réécouter sur francemusique.fr.